Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Ce matin, nous sommes à l'étude numéro 22 et le titre sera « Comment il faut prêcher l'Évangile ». Il est dit dans les Proverbes au chapitre 11, verset 30, « Celui qui gagne des âmes est sage. » Comme nous l'avons vu, notre texte attribue la conversion à l'homme gagner des âmes. Gagner des âmes, c'est convertir les hommes. Je désire vous montrer, premièrement, que plusieurs passages de l'Écriture sainte attribuent la conversion à l'homme. Deuxièmement, que cette affirmation est parfaitement en accord avec d'autres passages qui l'attribuent à Dieu. Troisièmement, j'examinerai avec vous certains points importants relatifs à la prédication de l'Évangile qui montrent clairement que pour gagner des âmes à Christ, il faut une grande sagesse pratique. Premièrement, la Bible attribue la conversion à l'homme. En effet, beaucoup de versets présente la conversion des pécheurs comme étant l'œuvre de l'homme. Nous lisons dans Daniel, au chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été sages luiront comme la splendeur du ciel, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Ici, la conversion est bel et bien l'œuvre de l'homme. De même, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pourtant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » L'apôtre dit explicitement aux Corinthiens qu'il a fait d'eux des chrétiens par l'Évangile ou par la vérité qu'il prêchait. Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20, dit ceci. « Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare loin de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un seul pécheur, selon les versions, il est dit un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira ainsi une multitude de péchés. » Ces passages, comme bien d'autres, établissent très clairement et abondamment cette doctrine que la Bible attribue véritablement la conversion à l'homme. Et deuxièmement, la Sainte Bible attribue également la conversion à Dieu. Nous allons voir cela de très près. J'ai souvent trouvé étrange que des hommes puissent avoir la moindre contradiction entre ces deux affirmations. Ils n'en ont pas su voir la logique. C'est ça le problème. Il est bien facile de comprendre qu'il y a un sens dans lequel Dieu convertit les pécheurs et un autre sens dans lequel les hommes les convertissent également. L'Écriture sainte attribue la conversion à quatre agents différents, aux hommes, à Dieu, à la vérité et au pécheur lui-même. Les passages qu'il attribue à la vérité sont les plus nombreux. Que les hommes aient négligé ces distinctions et regardé la conversion comme une œuvre accomplie exclusivement par Dieu est une chose étonnante. Il est étonnant aussi qu'on ait toujours trouvé des difficultés à ce sujet ou que les gens se soient toujours déclarés incapables de concilier ces différentes catégories de passages bibliques. La Bible tient sur ce point le même langage que nous emploierions pour des sujets ordinaires. Voilà un homme qui relève d'une grave maladie. N'est-ce pas bien naturel pour lui de dire, en parlant de son médecin, « Cet homme m'a sauvé la vie ». Entend-il par là que le médecin l'a guéri sans que Dieu soit pour rien dans son rétablissement? Certainement non, à moins d'être un impie. C'est Dieu qui a fait le médecin et qui a fait les remèdes également. Son intervention est aussi nécessaire pour que ceux-ci puissent agir et sauver une vie qu'elle l'est pour que la vérité puisse opérer à salut sur une âme. Affirmer le contraire ne serait que pur athéisme. Il est donc vrai que c'est le médecin qui a sauvé le malade et il est vrai également que c'est Dieu qui l'a sauvé. Il est également vrai que le remède lui a sauvé la vie, et vrai aussi qu'il a sauvé sa vie en prenant le remède, car s'il l'avait refusé, il n'aurait produit aucun bien. Il est donc vrai que c'est Dieu qui donne à la vérité le pouvoir de convertir les pécheurs. Dieu est un agent actif, volontaire, puissant pour changer un cœur, mais celui qui annonce la vérité est aussi un agent. Nous appelons d'habitude simplement instruments les pasteurs et d'autres hommes qui convertissent les pécheurs. Ce n'est pas parfaitement correct, car l'homme est plus qu'un instrument. La vérité n'est qu'un instrument inconscient. L'homme est beaucoup plus que cela. Il est à l'œuvre comme étant un agent responsable et volontaire. L'Esprit de Dieu, au moyen de la vérité, pousse le pécheur à se convertir et dans ce sens, il est la cause efficiente de la conversion. Mais le pécheur se convertit effectivement et dans ce sens, il en est l'auteur. Plusieurs personnes, en lisant leur Bible, arrêtent leurs yeux sur les passages où cette œuvre est attribuée à l'Esprit de Dieu et paraissent négliger ceux qu'il attribue à l'homme et ceux qui en parlent comme étant l'acte du pécheur lui-même. Quand elles ont cité l'Écriture sainte, pour montrer que la conversion est l'œuvre de Dieu, elle croit avoir prouvé que c'est une œuvre dans laquelle l'homme est passif. Dans un traité intitulé « La génération effet de la puissance divine », l'auteur démontre que cette œuvre est accomplie par l'Esprit Saint de Dieu et il en reste là. Or, il aurait été aussi vrai, aussi philosophique et aussi scripturaire de dire que la conversion est l'œuvre de l'homme. L'auteur n'a donc montré que la moitié de la vérité. Le titre de son traité est une pierre d'achoppement. Il dit la vérité, mais non toute la vérité. Un traité pourrait être écrit sous ce titre « La conversion ou régénération, c'est l'œuvre de l'homme ». Ce serait tout aussi juste, tout aussi scripturaire et philosophique que le premier. Ainsi l'auteur, dans son zèle pour reconnaître et honorer Dieu comme étant l'agent de la transformation, laisse de côté le fait qu'un changement de cœur est vraiment l'œuvre du pécheur lui-même. Il laisse donc le pécheur fortement retranché dans son ignorance coupable et les armes de la rébellion dans la main, résistant hardiment aux sommations de son maître et attendant passivement que Dieu crée en lui un cœur nouveau. Vous voyez la liaison qu'il y a entre ce que demande notre texte et le fait évident que c'est bel et bien Dieu qui renouvelle le cœur. Dieu vous commande de vous faire un cœur nouveau. Il attend que vous le fassiez vous-même. Pécheur, laisse-moi te dire que si tu refuses de le faire, tu iras malheureusement en enfer et que durant toute l'éternité, tu sentiras que tu a mérité ton châtiment pour avoir négligé ce devoir. La prédication devrait donc être directe. On doit parler aux hommes et non des hommes. Le pasteur doit donc s'adresser à ses auditeurs. C'est à eux qu'il doit prêcher et qu'il doit leur parler d'eux-mêmes et ne pas leur laisser l'impression qu'il leur parle d'autrui. Il ne pourra leur faire du bien que dans la mesure où il réussira à convaincre chaque auditeur individuellement que c'est bien de lui qu'il est question. Beaucoup de prédicateurs paraissent effrayés à l'idée de donner l'impression qu'ils ont en vue chacun en particulier. Ils prêcheront contre certains péchés comme si ceux-ci n'avaient rien à faire avec le pécheur. Ils ne voudraient en aucun cas parler comme si leur auditeur était coupable de cette abominable façon de faire. Or, cette prédication sera n'importe quoi sauf la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas ainsi que faisaient les prophètes, ni Christ, ni les apôtres. Ce n'est pas non plus ainsi que font les pasteurs qui réussissent à gagner des âmes à Christ. Un autre point très important pour la prédication, c'est que le pasteur devrait pourchasser les pécheurs et les chrétiens partout où ils ont pu se retrancher dans l'inaction. Le but de la prédication n'est pas de mettre les gens à l'aise et de les laisser tranquilles, mais de les faire agir et de les faire réagir. On ne fait pas venir un médecin pour qu'il donne des narcotiques et des palliatifs pour ôter toute apparence de maladie jusqu'à ce que celle-ci entraîne la mort, mais pour qu'il sonde le mal, qu'il en découvre la racine si profondément cachée qu'elle soit et qu'il l'extirpe. Ainsi, lorsque un homme qui fait profession de christianisme est tombé dans le relâchement, assailli de doutes et de craintes, eh bien le devoir du pasteur n'est pas de le tranquilliser tandis qu'il reste dans ses péchés, ni de le consoler, mais de le faire sortir de son erreur, de son infidélité, et de lui révéler son état et la cause de ses craintes et de ses doutes. Tout cela, aujourd'hui, est difficilement applicable parce que nous avons tellement peur de heurter les gens. Un pasteur devrait donc connaître l'opinion religieuse de chaque pécheur de sa paroisse. Un pasteur de campagne est vraiment inexcusable s'il reste ignorant à cet égard. Il n'a aucune excuse pour ne pas connaître les opinions religieuses de toute sa paroisse et de tous ceux qui sont sous son influence. En effet, comment pourrait-il leur parler? Comment serait-il à même de tirer de son trésor des choses vieilles et des choses nouvelles, et cela pour adapter la vérité au cas de chacun? Comment pourrait-il les faire sortir de leur retraite s'il ne sait pas où ils se cachent? Ils pourraient prêcher sur tous les tons quelques doctrines fondamentales, la repentance et la foi et la repentance, et cela jusqu'au jugement dernier, et ne jamais faire aucune impression sur un grand nombre d'esprits. Chaque pécheur a une cachette, un lieu de refuge où il s'attarde. Il ou elle cultive un mensonge favori grâce auquel il se rassure lui-même. Que le pasteur soit par la prédication, soit en privé, puisse dénicher ce mensonge et l'expulser, sinon le pécheur ira en enfer dans ses péchés et son sang sera sur la robe du pasteur. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Une autre chose importante, c'est qu'un pasteur doit insister spécialement sur les points particuliers les plus nécessaires. Je m'explique. Parfois, il y a affaire, ou il a affaire, à des personnes qui ont été amenées à placer une grande confiance dans leur propre résolution et qui se persuadent que peu à peu, et quand il leur plaira, elles pourront se repentir sans le secours de l'Esprit Saint de Dieu. Il doit détruire ses fausses espérances et il doit montrer qu'elles sont entièrement contraires aux Saintes Écritures. Il doit donc montrer que si l'Esprit Saint de Dieu contriste, qui est contristé, va se retirer plus tard, eh bien, il n'y sera, hélas, plus du tout disposé. Il faudrait que je répète cela. Il doit donc, celui qui prêche ou celle qui prêche, il ou elle doit montrer que si l'Esprit Saint de Dieu, contristé, qui est contristé et risque de se retirer, il n'y sera plus du tout disposé, l'Esprit Saint, d'agir dans cette personne. Le pasteur qui s'aperçoit que ses erreurs prédominent devrait les mettre au grand jour. Il devrait les dénicher, comprendre comment elles sont soutenues et alors annoncer les vérités qui montrent la fausseté, c'est-à-dire la folie et le danger de pareilles notions. D'autre part, il trouvera peut-être des gens qui ont de telles notions quant à l'élection et à la souveraineté de Dieu, qu'ils penseront, par exemple, n'avoir rien d'autre à faire que d'attendre le mouvement de l'eau. Il faut donc que le pasteur s'oppose directement à ces vues, qu'il leur fasse sentir leur capacité latente d'obéir à Dieu, qu'il leur montre leur obligation et leur devoir, et qu'il insiste ainsi jusqu'à ce qu'il les amène à se soumettre et à être sauvés. Bien entendu, c'est plus vite dit que fait, surtout de nos jours, où un pasteur risque même de jouer sa place en voulant prêcher honnêtement la sainte parole de Dieu. Ils se sont donc abrités derrière une notion erronée et il n'y a aucun moyen de les faire sortir de leur cachette, sinon de rectifier leur erreur sur ces points. Si vous ne mettez pas en lumière le point même derrière lequel le pécheur se retranche, vous ne le ferez pas bouger du tout. Il ne sert à rien d'insister auprès de lui sur des vérités qu'il admet, même si elles contredisent de fait ses fausses notions. Lui suppose qu'elles sont parfaitement compatibles avec ses propres idées et il ne voit pas l'incompatibilité dès lors des vérités. Et ces vérités ne le touchent absolument pas, ni ne l'amènent à la repentance. Chers frères et sœurs, quand le Saint-Esprit conteste avec le pécheur, le laisse-t-il sous l'impression qu'il ne s'attend pas à ce qu'il obéisse maintenant? Est-ce là l'impression produite par les apôtres? Comment se fait-il qu'aujourd'hui tant de pasteurs prêchent de manière que leurs auditeurs ne se sentent pas tenus de se repentir à l'heure-même, jusqu'à ce que la conscience du pécheur soit éveillée quant à cette obligation? En vain lui prêcherez-vous la vérité? Jusqu'à ce que les pasteurs apprennent comment produire l'impression juste, eh bien le monde ne pourra pas être amené à la conversion. Oh, quelle extension alarmante n'a-t-elle pas prise parmi les impénitents l'idée qu'ils doivent attendre le moment favorable de Dieu. Au contraire, on doit faire sentir aux pécheurs qu'il a quelque chose à faire lui-même. Il doit se repentir. Nul autre ne peut le faire à sa place, pas plus Dieu que l'homme. Il peut le faire maintenant. La piété consiste à faire et non à attendre. Le pécheur doit agir maintenant, sinon il court le danger de la mort éternelle. Les pasteurs ne devraient jamais être satisfaits avant d'avoir anéanti toutes les excuses des pécheurs. Alléguer l'incapacité est la pire des excuses. C'est calomnier Dieu, c'est l'accuser d'une tyrannie sans borne. Il commanderait aux hommes de faire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Faites sentir aux pécheurs que c'est là le vrai caractère de son excuse. Amenez le pécheur à voir que tout ce qu'il prétexte pour ne pas se soumettre n'est que pure rébellion contre Dieu. Arrachez-lui tout jusqu'au dernier mensonge auquel il pourra se cramponner et qu'il se sente absolument condamné devant Dieu. Montrez-leur que s'ils contristent maintenant l'Esprit Saint de Dieu, il est très probable qu'ils seront perdus pour toujours. Expliquez-leur pourquoi ils ne font rien sans l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que Dieu commande, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas disposés à le faire. Ça, c'est donc différent. Il est aussi certain qu'ils ne se repentiront pas sans l'action du Saint-Esprit que s'ils étaient maintenant en enfer ou véritablement incapables de se repentir. Ils s'opposent tellement à Dieu qu'ils ne se repentiront jamais, à moins que Dieu n'envoie sur eux l'Esprit Saint pour les convier à l'obéissance. Dites-leur encore qu'un pécheur qui, sous la dispensation évangélique, entend annoncer la vérité, si réellement il se convertit, le fait en général quand il est jeune. S'il ne se convertit pas dans sa jeunesse, et je peux vous dire que j'ai l'expérience de savoir cela à mon grand âge, il est ordinairement abandonné de Dieu. Là où la vérité est prêchée, ou bien les pécheurs se raidissent contre l'Évangile, ou bien ils se convertissent. Je sais qu'il est des pécheurs âgés qui se convertissent, mais ce sont plutôt des exceptions. Permettez-moi de faire quelques remarques sur la manière de prêcher. La prédication devrait être un genre de conversation. Pour être comprise, la prédication doit revêtir le style familier. Un pasteur qui désire absolument être compris doit prêcher exactement comme il parlerait. Rien ne persuade mieux le pécheur que la religion est une chose mystérieuse pour certains et incompréhensible que ce style formaliste et ce ton spécial, généralement employé en chair, eh bien le pasteur devrait faire comme un avocat qui désire se faire parfaitement comprendre du jury. L'avocat emploie un style tout à fait familier. Le style pompeux ne fera aucun bien. Jamais l'évangile ne produira de grands résultats tant que les pasteurs ne parleront pas du haut de la chair à leurs auditeurs comme ils parlent dans la conversation courante. La prédication doit être faite dans le langage ordinaire de la vie. Non seulement le style doit être familier, mais les mots doivent être ceux qu'on emploie ordinairement, sans quoi ils ne seront pas compris. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ se sert toujours des mots les plus usuels. Le langage de l'Évangile est le plus clair, le plus simple et le plus facile à comprendre de tous les langages du monde. En entendant certains pasteurs, même en temps de réveil, je me suis demandé ce que faisaient ceux de leurs auditeurs qui n'avaient pas de dictionnaire. Il y avait tant de phrases entassées les unes sur les autres, évidemment plutôt pour embellir le discours que pour instruire les gens. La prédication devrait donc être constamment illustrée d'explications tirées de faits réels ou supposés. C'est ainsi que Jésus enseignait. Il avançait un principe, puis l'illustrait tantôt au moyen d'une parabole, c'est-à-dire un court récit d'un événement réel ou même imaginaire, tantôt il introduisait simplement le principe dans la parabole. Il y a une multitude de faits dont on pourrait se servir avec avantage et cependant, peu de pasteurs osent le faire parce qu'ils craignent que quelqu'un le leur reproche et ne dise « Oh, il raconte des histoires, il raconte des histoires. » Mais quoi ? Eh bien, croyez-moi ou pas, c'est ainsi que Jésus-Christ prêchait, et c'est la seule manière de prêcher. On devrait se servir de faits réels ou supposés pour exposer la vérité. Des vérités sans illustration sont généralement aussi propres à convertir les pécheurs qu'une démonstration mathématique. En sera-t-il toujours ainsi? Fera-t-on toujours le reproche aux pasteurs qu'ils suivent l'exemple de Jésus-Christ en illustrant les vérités par des faits? Qu'ils n'en continuent pas moins, qu'ils continuent pas moins à prêcher ainsi malgré les accusations des insensés? Ils ont pour eux Jésus-Christ et le commun bon sens. Les illustrations doivent être tirées de la vie courante et des affaires ordinaires de la société. J'avais un livre très très épais, au moins 3000 pages, si c'est pas plus. J'en ai fait cadeau à une pasteur amie qui est la moitié plus jeune que moi, donc elle pourra en profiter. Là, il y a des milliers d'illustrations intéressantes qui peuvent être utilisées par elle. J'entendais un jour un pasteur se servir pour développer une idée de la comparaison d'un commerçant qui traite une affaire. Un de ses collègues lui a fait des remarques particulièrement sur sa comparaison qui, disait-il, était trop familière et abaissait ainsi la dignité de la chair. Il ajouta que dans la prédication, il fallait puiser ses illustrations dans l'histoire ancienne ou à toute autre source élevée pour conserver à la chair sa dignité. Il fallait donc surtout une théologie compliquée que la plupart des gens moyens n'arrivent jamais à comprendre. Dignité, bien sûr, le but d'une illustration est d'amener les gens à voir la vérité et non pas de défendre la dignité de la chair. Un pasteur n'emploie pas une illustration pour ébahir les gens, mais pour leur faire comprendre la vérité. Notre Sauveur illustrait toujours ses instructions par des images familières et descendait souvent bien au-dessous de ce qui est de nos jours réputé essentiel pour ne pas déroger à la dignité de la chair. Il parlait de poules et de poussins, d'enfants sur les places publiques, de brebis et d'agneaux, de bergers, de laboureurs, de vignerons, de marchands, de farine, de levain, etc. Et quand il parlait de roi, comme dans la parabole du roi qui fit les noces de son fils et dans celle de l'homme noble qui s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume, il faisait allusion à des faits historiques bien connus du peuple. L'illustration devrait toujours être prise parmi des choses si familières qu'elle ne distrait pas l'attention, mais que par son moyen, la vérité devienne beaucoup plus claire. La prédication devrait donc contenir des répétitions. Ça ne va pas plaire à certains théologiens avec des titres ronflants. Si un pasteur désire que sa prédication produise de l'effet, il ne doit pas avoir peur de répéter tout ce qu'il croit n'avoir pas été parfaitement compris. C'est là un des grands inconvénients des sermons écrits. Le prédicateur lit sans interruption jusqu'à ce qu'il arrive au bout d'un ton théâtral. Un grand avocat me disait un jour que la difficulté des pasteurs à se faire comprendre venait de ce qu'ils ne se répétaient pas assez. Quand je parle, m'a dit cet avocat, quand je parle à un jury, je m'attends à dire pour le moins deux fois ce que je désire lui faire remarquer. Souvent, je le répète jusqu'à trois ou quatre fois, ou même parfois plus. Autrement, je ne l'entraîne pas avec moi, et il ne peut sentir la force de ce qui vient ensuite. Or, si un jury lié par un serment. Appelé à juger les affaires courantes du monde, ne peut saisir un argument sans qu'il soit souvent répété. Comment l'homme ordinaire comprendra-t-il la prédication de l'Évangile si l'on ne revient pas plusieurs fois sur le même ou sur certains sujets? Un pasteur devrait donc tourner une vérité importante dans tous les sens jusqu'à ce que même les enfants puissent la saisir. Ne dites pas que les esprits cultivés se fatigueront de vos répétitions. Ce n'est pas là ce qui lasse des hommes raisonnables, bien au contraire, ils se plaisent à voir un pasteur qui s'efforce de bien se faire comprendre. Le fait est que plus les exemples donnés sont simples, plus ils rendent le sujet clair et plus les hommes qui réfléchissent l'écouteront avec intérêt. Je sais qu'il est de grands penseurs, oh oui, des grands penseurs auxquels des comparaisons faites pour mettre l'Évangile au niveau d'un enfant suggèrent des idées qu'il n'avait jamais crues ou jamais entendues auparavant. Ces hommes ordinaires, si occupés des affaires de ce monde, ne pensent guère ou souvent jamais à la foi chrétienne, et la prédication la plus claire et la plus explicite, c'est celle qui leur convient le mieux et qu'ils apprécieront. Un pasteur doit donc toujours être profondément pénétré de son sujet. Il adaptera alors les gens, ou plutôt les gestes, il les adaptera à la parole et la parole au geste, c'est ce que je voudrais dire. Et cela de manière à produire toute l'impression que la vérité doit produire. Il doit donc être, je voudrais dire, sérieux et sentir ce qu'il dit, et ses gestes correspondront alors à ses paroles. Mais s'il fait des gestes, ses bras pourront aller comme des ailes de moulin à vent, sans produire aucune impression. On dit que les acteurs doivent déployer sur la scène un art extraordinaire pour arriver à donner au public l'impression de la réalité. Le but des leçons d'éloquence et de leur enseigner cet art. Mais si un homme est empoigné par son sujet, il le fera naturellement et sans des très grandes études compliquées. Il fera naturellement ce que les cœurs, et surtout les cœurs simples, pourront comprendre. Et il fera ce que les cours d'éloquence enseignent avec beaucoup de peine. Regardez par exemple dans la rue un homme engagé dans une conversation très animée. Avec quelle force ne gesticule-t-il pas, relatant ses premières expériences de prédicateur? Le fameux prédicateur Wesley a écrit « Quand je parlais à des gens simples, je remarquais qu'ils restaient ébahis et éperdus. Ceci m'obligea bien vite à changer mon style et adopter le langage de ceux à qui je m'adressais. Cependant, il y a dans cette simplicité une dignité qui n'est pas désagréable aux personnes du plus haut rang. Quant à la puissance dans la manière de prêcher, il nous est raconté que Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, marchant avec un ami non loin du marché, s'arrêta pour regarder deux femmes qui se querellaient avec fureur. « S'il vous plaît, allons, » dit son ami, « je ne puis supporter tout cela. »« Ah non, restez, » répliqua Wesley en regardant les batailleuses. « Restez et apprenez comment nous devrions prêcher. » Voyez une femme ou un enfant qui parle du fond du cœur. Gesticulez-leur et aussi naturel que de remuer la langue ou les lèvres. C'est ça la perfection de l'éloquence. Donc, la seule chose qui manque souvent au prédicateur pour parler avec naturel, c'est la conviction profonde, tout simplement. Comment peuvent-ils être naturels dans l'éloquence ou dans l'élocution quand ils ne sentent pas ce qu'ils disent, mais qu'ils s'appliquent à prendre un air théâtral? Un pasteur doit donc viser à essayer de convertir son auditoire. Mais me demanderez-vous, n'est-ce pas là le but de toute prédication? Non, non, non. Un pasteur a toujours un but quelconque quand il prêche, mais la plupart des sermons n'ont jamais eu pour but de convertir les pécheurs. Si ceux-ci venaient à se convertir par ses prédications, le pasteur lui-même en serait très étonné. On m'a cité à ce propos le fait suivant. De deux jeunes pasteurs entrés en même temps dans le ministère, l'un avait beaucoup de conversions, l'autre absolument aucun. Or, un jour, ce dernier demanda à son collègue la raison de cette différence. La raison en est, lui répondit celui-ci, que je vise un autre but que vous quand je prêche. Mon but est de convertir les pécheurs, mais vous, vous visez autre chose, puis vous mettez sur le compte de la souveraineté de Dieu le fait que vos prédications ne produisent pas le même effet que les miennes, alors que vous n'avez jamais visé cela. Tenez, voici un de mes sermons. Prêchez-le à vos auditeurs. Je vous donne donc tous mes feuillets. Et prêchez exactement ce que j'ai préparé pour un de mes sermons. Et vous verrez l'effet qu'il produira. Et cet homme a fait ainsi. Il prêcha le sermon de son ami, et celui-ci produisait vraiment de l'effet. Le pasteur fut même effrayé de voir les pécheurs commencer à pleurer lorsque, à l'issue du service, l'un d'entre eux se rendit auprès de lui, demandant ce qu'il devait faire. Le prédicateur lui fit ses excuses. « Oh, je n'avais pas le dessein de vous blesser, lui dit-il, et je suis bien peiné d'avoir heurté vos sentiments. » Franchement, chers amis, quel drôle de pasteur! L'évêque de Londres demandait un jour au célèbre acteur Garrick comment il se faisait que des acteurs, en représentant une pure fiction, parvenaient à émouvoir le public jusqu'aux larmes, tandis que les pasteurs présentent les réalités les plus solennelles. Ils avaient de la peine à se faire écouter. En vrai philosophe, Garrick lui répondit « Eh bien, c'est que, voyez-vous, nous représentons une fiction comme si elle était une réalité. Or vous, vous représentez la réalité comme si c'était simplement une fiction. C'est là la clé du problème. Quel est en effet le but de l'acteur quand il joue? C'est bien entendu de tellement s'identifier avec l'esprit et l'intention de l'auteur qu'il parvienne à faire sien ses sentiments. Et ainsi, il leur donne corps et les représente comme étant une réalité vivante. Je ne voudrais pas, pour tout au monde, faire le moindre tort à l'influence d'un serviteur de Dieu réellement et consciencieusement attaché à son ministère. Mais dire la vérité ne fera aucun mal à des pasteurs qui prouvent par leur vie et par leur prédication que leur but le plus cher est de faire le bien et de gagner des âmes à Christ. Ceux-là reconnaîtront la vérité de tout ce que je dis. Ils l'avouent eux-mêmes et en sont attristés. Quand j'étais un jeune homme, j'ai entendu Billy Graham, j'ai entendu d'autres prédicateurs célèbres, et croyez-moi, cela vous allez jusqu'au fond de votre être, ça vous faisait réagir, vous aviez même la chair de poule. C'était pas seulement des mots de théologie compliquée qui veulent rien dire, mais c'était des faits tellement profonds et réels que on était obligé de réagir en quelque sorte. La venue du règne de Dieu dépend donc de ce que l'Église possédera des pasteurs qui seront mieux préparés pour leur tâche. Nous les aurons, car les promesses de Dieu sont absolument certaines. Des pasteurs tels que nous les avons aujourd'hui ne convertiront hélas jamais le monde. Or, il faut que le monde soit converti. C'est une réalité, malgré tous leurs sophismes et tous leurs gadgets modernes, ils vont, s'ils ne se convertissent pas, tout droit en enfer. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez obtenir la preuve en parcourant le Saint-Livre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Saint-Luc chapitre 10, verset 2. Je termine donc pour aujourd'hui cette courte étude et demain nous prendrons la suite. Nous allons donc prier ensemble et je voudrais avant la prière vous citer les paroles d'un ancien cantique. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où pour nous Jésus prie. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Ton aiguillon, ô mort, tu ne l'as plus. Tombeau, déjà, nous ne te craignons plus. Jésus sur toi remporta la victoire et nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Prions. Éternel, notre Dieu et Père, c'est toi qui nous guéris, corps, âme et esprit. C'est toi qui es semblable à toi parmi les forts, qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable, digne de louange, et qui fait des merveilles, qui conduit par ta miséricorde ton peuple que tu as racheté. Nous nous prosternons devant toi. Oui, Seigneur, nous adorons ta majesté et ta puissance. Nous adorons ton amour et tes compassions qui se renouvellent sur nous chaque matin. N'est-ce pas toi qui nous mets au cœur de te chercher? Père Saint, assiste-nous pendant cette journée par ta force glorieuse, afin que nous puissions triompher de tous nos ennemis. Tu, prince des ténèbres, et aussi de toutes les tentations, que nous puissions triompher, je répète, du prince des ténèbres et de toutes les tentations qu'il essaye de nous offrir, et de nos ennemis au-dedans, de notre paresse également, de notre incrédulité, de notre orgueil, de notre justice propre. Ô notre Sauveur, qui a vaincu le péché par ta mort sanglante, afin de nous délivrer à la fois de sa puissance et du châtiment qui nous avait mérité, que nous avons tous mérité. Donne-nous donc de nous réfugier en toi, de nous laisser aller dans tes bras, de ne rien chercher en nous-mêmes, de tout attendre de toi et de t'honorer par une confiance vraiment filiale. Alors, nous ne serons point troublés. Alors, notre vie entière sera un cantique de délivrance et de louange jusqu'au jour où tu nous recueilleras dans ton sein pour nous faire jouir de ta présence à jamais. Amen. Amen. Chers amis, merci de l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, la suite de notre série. Je vous donnerai pour l'étude numéro 23 le titre suivant: comment les églises peuvent seconder les pasteurs. Merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à ces études. Au revoir et à demain matin.